En 1885, se tint à Berlin une conférence internationale sur les conditions du partage colonial de l'Afrique. Depuis le XVe siècle, les bourgeois européens y avaient établi des comptoirs et déporté des millions d'Africains, réduits en esclavage en Amérique. Ce fut une saignée qui déstructura profondément les sociétés africaines et qui nourrit l'accumulation des capitaux européens. Puis, vers 1880, le développement prodigieux du capitalisme en Europe conduisit à la concentration des capitaux dans de grands groupes industriels et bancaires. Leur marché national ne suffisait plus. À la recherche de débouchés pour investir leurs capitaux pléthoriques et sécuriser leurs sources de matières premières, ils se jetèrent à l'assaut du monde entier. Le capitalisme entrait dans l'époque impérialiste, celle des conquêtes, des guerres et du pillage généralisé. Au moment de la conférence de Berlin, la Grande-Bretagne avait pris pied au Cap, en Afrique du Sud, en Sierra Leone, dans le futur Ghana et à Lagos, le principal port du Nigeria. La France renforçait ses positions au Sénégal. L'Allemagne, elle, avait pris du retard. La conférence fixa la règle pour le partage de l'Afrique. Premier arrivé, premier servi. Aucun représentant africain n'y fut évidemment invité. Les puissances qui pesaient étaient la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. Les États-Unis, encore puissances de second plan, étaient présents. Ils n'avaient pas de possession en Afrique et avaient encore à développer leur immense territoire intérieur. Pour autant, les États-Unis ne voulaient pas laisser la place aux seules puissances européennes. Si toutes les puissances lorgnaient sur le Congo, cette région aussi vaste que l'Europe de l'Ouest, aucune n'était en situation de s'y imposer. Elles préférèrent le laisser à Léopold II, le roi des Belges, plutôt qu'aucune de leurs rivales ne s'en saisisse. Et c'est ainsi que la petite Belgique mit la main sur l'immense Congo. Lénine résuma dans son livre « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, l'esprit des puissances concurrentes ». L'essence même de l'impérialisme, c'est la rivalité de plusieurs grandes puissances tendant à l'hégémonie, c'est-à-dire à la conquête de territoires, non pas tant pour elles-mêmes que pour affaiblir l'adversaire et saper son hégémonie. Pour justifier l'invasion coloniale, la conférence de Berlin prétendit défendre la liberté du commerce, la tolérance religieuse et même la lutte contre la traite des esclaves. Déjà, derrière les envolées morales très lyriques, il s'agissait de dépecer le continent, ce qu'exprima avec cynisme le Premier ministre britannique. Nous avons entrepris de tracer des lignes sur les cartes de régions où l'homme blanc n'avait jamais mis le pied. Nous nous sommes distribués des montagnes, des rivières, des lacs, à peine gênés par cette petite difficulté que nous ne savions pas exactement où se trouvaient ces montagnes, ces rivières et ces lacs. L'intérieur de l'immense continent africain était quasi inconnu, pour les Européens du moins, car l'Afrique avait une histoire extrêmement riche. La conquête coloniale se heurta à la résistance des populations et de certains dirigeants africains. Mais elle fut écrasée par la supériorité technologique acquise par les Européens. Un politicien anglais résuma le rapport de force. « Quoi qu'il arrive, nous avons le fusil Maxim, les autres, non. » En 15 ans, tout le continent fut partagé, avec des frontières tracées à la règle. Les puissances coloniales s'attelèrent au pillage des ressources nécessaires à leur industrie, l'huile de palme, le coton, le caoutchouc. Le travail forcé devint la règle, imposant aux villages de fournir des bras pour les travaux agricoles. Au Congo, 10 millions de personnes moururent des sévices corporels et du travail forcé pour extraire le caoutchouc. Les rares investissements furent pour les routes, ports et chemins de fer nécessaires aux exportations. Ce pillage de l'Afrique la plaçait d'emblée en position subalterne dans l'économie mondiale, comme productrice de matières premières et sans aucun développement industriel. En 1898, le premier partage de l'Afrique se termina à Fashoda, au sud du Soudan, où les troupes britanniques et françaises furent à deux doigts de se battre. En 1911, au Maroc, ce furent cette fois la France et l'Allemagne qui manquèrent d'engager les hostilités. L'Afrique partagée, comme le monde entier, les rivalités s'exacerbaient et ne pouvaient que déboucher sur un affrontement plus large qui éclata en 1914. Durant la Première Guerre mondiale, l'intégration de l'Afrique à l'économie mondiale s'accéléra. Le Nigeria fournit de l'étain et le Congo du cuivre. Les colonies alimentaient aussi les métropoles et leurs armées en nourriture, ce qui déclencha des famines. le continent africain servit de réservoir de chair à canon. 200 000 tirailleurs, dits sénégalais, mais venus de toute l'Afrique de l'Ouest, furent embrigadés dans l'armée française. Ces réquisitions provoquèrent des révoltes dans bien des régions. Car la guerre, si elle plongeait le monde capitaliste dans la barbarie, préparait aussi la révolution. Le bouleversement de la vie de centaines de millions de personnes, les souffrances et les morts catalysaient la prise de conscience des opprimés. Partie de Russie en 1917, la vague révolutionnaire submergea le monde entier pendant plusieurs années. Sur la question coloniale, l'internationale communiste, fondée par les bolcheviks en 1919, affirma « Tout parti appartenant à la Troisième Internationale a pour devoir de soutenir, non en parole mais en fait, tout mouvement d'émancipation dans les colonies, d'exiger l'expulsion des colonies des impérialistes de la métropole. » Ce programme n'était pas un programme humaniste ou démocrate. C'était un programme internationaliste pour unir tous les opprimés dans un combat commun pour renverser le capitalisme. Les impérialistes s'appuyaient sur le pillage des ressources des colonies et l'exploitation de leurs millions de travailleurs. En expulsant les puissances coloniales, les masses pauvres des pays colonisés se seraient émancipées de leurs exploiteurs les plus puissants et auraient affaibli les impérialistes européens, joignant leurs forces au combat des travailleurs des métropoles. Et en 1919, en pleine vague révolutionnaire mondiale, ce combat n'était pas une vue de l'esprit. Car la guerre avait entraîné dans la même barbarie les exploités d'Afrique et d'Europe. Sur les champs de bataille, les Africains enrôlés dans les troupes coloniales avaient appris à se battre, comme le montre le film Tirailleurs. Des travailleurs venus du Maghreb et d'Indochine découvraient les bagnes industrielles en France. Tous partageaient les souffrances de la guerre et de l'exploitation. Dans les casernes, les tranchées et les usines, ils côtoyaient des militants et s'engagèrent. Le Sénégalais Lamine Senghor, ancien tirailleur, devenu facteur à Paris, milita ainsi dans l'Union intercoloniale, créée par le jeune parti communiste. Il écrivait dans son journal, Le Paria. En 1925, Lamine Senghor prit place à la tribune d'un meeting qui rassembla 60 000 travailleurs à Paris, contre la répression par l'armée française de la révolte anticoloniale dans le Rif marocain. Les partis de l'Internationale communiste soutenaient tous les peuples opprimés qui se soulevaient contre l'impérialisme, même quand ils combattaient sous la direction de forces bourgeoises ou petites bourgeoises. Mais l'Internationale défendait avant tout la nécessité que les travailleurs, même quand ils étaient très peu nombreux, s'organisent à part dans des partis communistes indépendants de tous les courants nationalistes ou réformistes. Dans les colonies, où la classe ouvrière n'était qu'embryonnaire, ces recommandations de l'Internationale étaient une anticipation du fait que l'expansion du capitalisme allait faire surgir partout une classe ouvrière. Cela avait déjà été le raisonnement et le choix politique des premiers militants marxistes russes à la fin du XIXe siècle, alors que la classe ouvrière était quasi inexistante en Russie. Ce choix montra toute sa justesse en octobre 1917, quand les ouvriers et le parti bolchévique prirent le pouvoir avec l'appui de la paysannerie pauvre. Dans de vastes régions d'Asie, sans industrie ni classe ouvrière, les peuples auparavant soumis au régime tsariste s'émancipèrent en liant leur sort au pouvoir ouvrier. C'est toute cette expérience qui guidait l'Internationale communiste. En Afrique, la production pour l'économie de guerre avait fait apparaître les premiers prolétaires, notamment dans la marine et les chemins de fer nécessaires aux exportations. Les travailleurs commencèrent à s'organiser. Au Sénégal, le premier syndicat de marins fut créé par des militants liés à la CGT, comme Maguette Ndiaye, qui avait été soldat et marin durant la guerre. En 1919, sur la ligne de chemin de fer de Dakar, les cheminots africains firent grève pour la première fois, pour l'indexation des salaires rongés par l'inflation, et entraînèrent leurs camarades de travail européens. À peine née, la classe ouvrière africaine engageait à son tour le combat contre l'exploitation. La guerre mondiale modifia les rapports de force impérialistes et consacra la domination américaine. Dès 1900, la conquête de l'Ouest achevée, les États-Unis avaient étendu leur influence en Amérique latine, dans la Caraïbe et le Pacifique. Ils soumettaient, par leur puissance économique, des États plus faibles. Et quand ceux-ci résistaient, les navires de guerre américains intervenaient. Bien sûr, au nom de la liberté de commerce et de la démocratie, en réalité pour leurs intérêts capitalistes. Le président américain Theodore Roosevelt résuma cette méthode en expliquant « J'ai toujours aimé ce proverbe d'Afrique de l'Ouest. Parle doucement, porte un gros bâton et tu iras loin. » Après la Première Guerre mondiale, les États-Unis se firent les champions du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, que reprenait le président Wilson dans son programme pour l'après-guerre. Wilson prétendait résoudre la question coloniale par un arrangement libre. Cette posture anticoloniale des États-Unis, permise par leur puissance économique, deviendra un élément récurrent de leur politique internationale. Mais en même temps, les États-Unis ne voulaient surtout pas d'une décolonisation arrachée par les peuples. Ils laissèrent les Britanniques et les Français jouer le rôle de gendarmes dans leurs empires coloniaux et mettre la main sur les colonies allemandes d'Afrique. Le Togo et le Cameroun devinrent ainsi des territoires sous mandat français et britannique, en réalité des colonies, avec la caution de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU que Lénine qualifiait de caverne de brigands. La France et la Grande-Bretagne, devenus des impérialistes de second rang, s'accrochaient d'autant plus à leurs monopoles coloniaux que ceux-ci leur assuraient un rôle international dépassant de loin leur réelle puissance économique. Le pillage colonial fit la fortune de dynasties bourgeoises qui ont prospéré jusqu'à nos jours, comme l'empire du coton Boussac, racheté en 1984 pour une bouchée de pain par un certain Bernard Arnault. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'Afrique servit à nouveau de base arrière aux grandes puissances. Le Congo, repris par les Alliés alors que la Belgique était occupée par l'armée allemande, fournit l'uranium de la bombe atomique qui anéantit Hiroshima. Une nouvelle fois, des centaines de milliers d'hommes furent enrôlés dans les troupes coloniales. Parmi eux, l'espoir de voir changer les choses devint immense. Gaston Donat, un cadre du PCF qui militait alors au Cameroun, explique ainsi. Le déroulement de la guerre était suivi dans les quartiers africains. Les boys transmettaient les nouvelles qu'ils entendaient chez les patrons. Il y avait aussi les lettres qu'écrivaient ou que faisaient écrire les soldats au combat. L'autorité des puissances coloniales, comme la France battue en 1940, était minée. Au sortir de la guerre, les révoltes éclatèrent. Les travailleurs y jouèrent un rôle actif, comme en 1947, lors de la grève des cheminots du Dakar-Niger. Le roman « Les bouts de bois de Dieu » montre la force de cette grève, que son auteur, Ousmane Sambène, décrit comme un moment clé de la grande mobilisation anticolonialiste. D'un bout à l'autre du continent, la révolte se propageait. La réponse des autorités coloniales fut partout la même. En décembre 1944, au camp de Tiaroy, au Sénégal, l'armée française tua plus de 190 tirailleurs qui réclamaient leur prime de démobilisation. En septembre 1945, à Douala, au Cameroun, des milices coloniales tuèrent des centaines de travailleurs en lutte contre la hausse du prix des aliments et entraînés par les cheminots en grève. En 1947, à Madagascar, 89 000 paysans insurgés contre les travaux forcés et les pénuries alimentaires étaient tués par l'armée française. Autant de massacres largement occultés par les livres d'histoire. Les États-Unis laissèrent les puissances européennes rétablir l'ordre dans leurs colonies. Ils ne voulaient surtout pas que les révoltes se développent vers une contestation plus large du système capitaliste, comme après la Première Guerre mondiale. Pour la même raison, Staline appuya aussi les puissances coloniales. Les partis communistes européens, profondément dénaturés par le stalinisme, mirent leur crédit et leur influence pour aider leur bourgeoisie à rétablir sa domination dans les métropoles et dans les colonies. Ainsi, au moment de la conférence de Brazzaville, en 1944, où De Gaulle réaffirma que le lien entre la France et ses colonies était définitif, le PCF déclarait « Pour la France, être une grande puissance européenne et mondiale et tout simplement continuer d'exister est la même chose. Unité et intégrité de la plus grande France, des Antilles à Madagascar, de Dakar à Casablanca, de l'Indochine à l'Océanie. » Ce langage était à l'opposé exact de celui de l'Internationale communiste 25 ans plus tôt, à l'époque de Lénine. Avec la dégénérescence stalinienne, les partis communistes étaient devenus des défenseurs de l'ordre impérialiste. Cette évolution, démarrée dès le milieu des années 1920, avait empêché l'émergence de partis communistes révolutionnaires en Afrique, qui manquèrent aux exploités des colonies au moment où la révolte gonflait partout. Dans cette effervescence sociale, des partis africains furent néanmoins créés, souvent en lien avec les partis de gauche des métropoles. En Afrique francophone, le PCF et la CGT formèrent bien des dirigeants, comme Ruben Umniobe au Cameroun ou Sékou Touré, dirigeant du premier syndicat des postiers de Guinée. Mais ce ne fut pas sur la base du marxisme que les staliniens avaient liquidé, mais sur une base nationaliste et réformiste. Le PCF prétendait ainsi que dans les colonies, il était dangereux de, je cite, « faire jouer à la classe ouvrière le rôle dirigeant dans le mouvement politique ». À cette école, les dirigeants indépendantistes africains apprirent à se méfier des masses et en même temps à s'appuyer sur leur révolte et à l'utiliser pour leurs objectifs politiques. Ils gagnèrent du crédit en exprimant la haine légitime des peuples contre l'oppression impérialiste. Comme le Guinéen Sékou Touré, qui osa dire non à De Gaulle, s'opposant au projet d'union française destiné à préserver le précaré de la France. Ces leaders nationalistes voulaient arracher un espace vital pour leur pays au sein de l'ordre impérialiste, mais sans remettre en cause ni le capitalisme, ni la domination impérialiste, ni même souvent les frontières tracées à Berlin ou à Versailles des décennies plus tôt. Mais l'espoir d'émancipation qu'ils représentaient aux yeux des masses en firent des hommes à abattre pour l'impérialisme. Pour les États-Unis, la décolonisation signifiait l'ouverture des monopoles coloniaux à leurs capitalistes. En 1957, après une tournée dans les pays africains devenus indépendants, Richard Nixon, alors vice-président, écrivit que « l'émergence d'une Afrique libre et indépendante est aussi importante pour nous sur le long terme qu'elle l'est pour les peuples de ce continent ». Les mots « sur le long terme » étaient importants. C'était la guerre froide. Et les États-Unis craignaient toute révolte et ne voulaient de changement que sous contrôle de l'impérialisme. C'est ainsi qu'ils fournissaient au même moment du matériel militaire à l'armée française qui massacrait en Algérie. La France avait réprimé systématiquement les nombreuses révoltes qui suivirent la guerre. Mais elle avait dû décamper d'Indochine. Et face aux pressions américaines, aux révoltes anticoloniales, elle dut se résoudre à accepter l'indépendance formelle de ses colonies, tout en manœuvrant pour que rien ne change sur le fond. C'est pour mener cette politique au mieux des intérêts de la bourgeoisie française que De Gaulle arriva au pouvoir en 1958, en pleine guerre d'Algérie. De Gaulle sélectionna des dirigeants dévoués, comme le premier président du Sénégal, Léopold Senghor, ou Félix Houphouët-Boigny, qui dirigea la Côte d'Ivoire de 1960 à 1993. Houphouët était médecin et riche propriétaire d'une exploitation de cacao. Élu député en 1945, il fut un temps proche du PCF, avant de se rapprocher de Mitterrand, et de participer de 1956 à 1961 au gouvernement français qui réprimait en Algérie et au Cameroun. Au Cameroun, l'armée française lança ses troupes pour écraser l'Union des populations du Cameroun, le mouvement indépendantiste. Elle assassina plus de 100 000 personnes au nom de la défense, de la civilisation et du monde libre. Elle brûlait les villages au napalm et déporta les habitants dans des camps, comme l'a dénoncé Mongo Betty dans ses livres, qui furent d'ailleurs censurés en France. En septembre 1958, les militaires français exécutèrent Ruben Umniobe. Pendant cette sale guerre, De Gaulle sélectionna un serviteur fidèle, Amadou Ahidjo. Dans son sillage se trouvait Paul Biya, à la tête du Cameroun depuis 1982, soit depuis 41 ans. Pour assurer sa domination sur ses anciennes colonies devenues indépendantes, le petit impérialisme français ne pouvait pas compter sur la puissance de son industrie ou de sa monnaie, contrairement aux États-Unis. Il devait maintenir son hégémonie par des instruments administratifs. La France créa le franc CFA, hérité de la monnaie coloniale, dont le cours est encore aujourd'hui décidé à Paris. Et elle garda étroitement en main les administrations, les armées, les politiciens placés à la tête des États dits indépendants pour défendre les intérêts de sa bourgeoisie. Après 1960, dans les pays dirigés par des dirigeants nationalistes qui n'étaient pas des affidés de l'ancienne puissance coloniale, en Guinée, au Mali, au Ghana, l'enthousiasme des indépendances fut rapidement douché par les difficultés économiques et sociales. Pour encadrer la population et imposer des efforts sous prétexte de développement national, ces régimes devinrent de plus en plus autoritaires. Les rêves panafricains de leurs dirigeants se heurtèrent aux ex-puissances coloniales qui utilisaient les frontières pour diviser et régner. L'impérialisme français fit ainsi avorter un projet d'union entre le Mali, le Sénégal et les actuels Burkina Faso et Bénin, soutenant les intrigues de Oufouette. Ce dernier s'opposa à toute tentative de fédération, qui aurait fait, selon lui, de la Côte d'Ivoire la vache à lait de l'Afrique de l'Ouest. Mais l'unification du continent échoua aussi du fait des choix des dirigeants nationalistes. Les couches sociales dont ces dirigeants défendaient les intérêts, la petite bourgeoisie intellectuelle, les commerçants aisés, les bourgeois ruraux, souhaitaient garder leur propre appareil d'État et les moyens qu'ils leur offraient pour s'enrichir. Ils refusaient de se soumettre à un pouvoir étatique plus large sur lequel ils n'auraient pas de prise. Ils étaient incapables d'unifier le continent, exactement comme les bourgeois européens sont incapables d'unifier réellement même la petite Europe. Cette unification du continent aurait représenté un immense pas en avant et ouvert des perspectives bien différentes aux peuples d'Afrique pour échapper à la domination impérialiste. Et la puissance du soulèvement colonial aurait pu la réaliser. Les tirailleurs dans l'armée française avaient vécu dans leur chair le sort commun qu'ils partageaient, qu'ils viennent du Sénégal, du Congo, de Mauritanie, de Guinée ou de Mali ou du Mali. Les travailleurs auraient pu mener ce combat, car eux n'avaient aucun intérêt au maintien des États nationaux. Un pouvoir des travailleurs et des paysans pauvres, même dans un seul pays, aurait eu des répercussions immenses dans toute l'Afrique et au-delà. Il aurait mené une politique pour s'adresser aux travailleurs des autres pays, pour étendre la révolution et remettre en cause les frontières et les États nationaux. Mais il n'y eut aucun parti pour défendre cette politique. Même quand il y eut un début de mobilisation des masses, les dirigeants nationalistes en gardèrent le contrôle. Pour tenter d'exister, ces dirigeants jouèrent alors des rivalités qui opposaient les anciennes métropoles coloniales, les États-Unis et l'Union soviétique. Depuis la Guinée ou l'Angola, des milliers de jeunes partirent étudier en Union soviétique. Parfois, quand les grandes puissances mettaient sur la touche un dirigeant africain trop indocile, cette coopération devenait militaire. Mais ces relations, liées à l'attitude des impérialistes, étaient instables. Des dirigeants s'affirmant marxistes un jour pour obtenir le soutien soviétique se tournaient le lendemain vers les États-Unis ou la France. L'impérialisme garda la main et continua à écarter et à tuer ceux qui ne seraient-ce que par leur discours anti-impérialiste avaient une certaine popularité. Ainsi, en 1987, au Burkina Faso, Thomas Sankara fut assassiné par son bras droit, Blaise Compaoré, qui devint l'homme de main de la France. Au fond, les dirigeants nationalistes, même les plus déterminés, avaient une marge de manœuvre extrêmement limitée. Appuyés sur une mince couche de notables et de militaires, ils n'avaient pas les moyens de transformer profondément la société. En ne remettant pas en cause les frontières héritées de la colonisation, en défendant des États nationaux appuyés sur des économies tournées uniquement vers la production de matières premières, ils ne pouvaient développer leur pays. Hier comme aujourd'hui, il n'y a pas de voie de développement en Afrique comme ailleurs qu'en socialisant les moyens de production et de distribution à l'échelle de la planète. Parmi toutes les ex-colonies, le Congo, Kinshasa, et ses immenses ressources minérales furent l'objet d'une intense rivalité. En 1955, les États-Unis avaient déjà signé avec la Belgique un accord qui leur réservait une large part de l'uranium du Katanga, la riche région minière au sud du pays, où la puissance coloniale belge exploitait le cuivre, le cobalt et l'étain. Contrairement à ce que la France avait engagé, après les révoltes anticoloniales, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la Belgique n'avait préparé aucun personnel politique pour lui servir de relais dans le mouvement de décolonisation. Patrice Lumumba incarna la voix nationaliste, voulant, je cite, « obtenir dans un délai raisonnable et par voie de négociation pacifique l'indépendance du pays ». Mais en janvier 1959, une immense révolte urbaine à Kinshasa accéléra brutalement le cours des événements. Et les dirigeants belges durent céder l'indépendance en juin 1960. Une lutte pour le pouvoir s'engagea. Lumumba, devenu Premier ministre, défendait l'unité du pays, mais n'avait pas de base dans la plupart des régions de ce vaste territoire. Confronté à une sécession du Katanga, encouragé par les Belges et les Français, Lumumba en appela en vain à l'ONU, avant d'être écarté du pouvoir par ses rivaux. Puis son bras droit, Mobutu Sese Seko, soutenu par la CIA, fit un coup d'État. Lumumba fut déporté et assassiné au Katanga, sur ordre des Belges, des Français, des Américains et avec la caution de l'ONU. Pour avoir été un leader indépendantiste déterminé et l'avoir payé de sa vie, Lumumba devint un symbole de la lutte contre l'impérialisme, bien au-delà du Congo. Mais pour les États-Unis, la désagrégation du Congo risquait d'ouvrir la voie à l'influence soviétique et à leurs rivaux belges et français. Alors, ils intervinrent militairement via l'ONU pour mettre fin à la sécession katangaise. En 1965, Mobutu imposait sa dictature. Il devint pour 30 ans l'homme de main des États-Unis, utilisant aussi les services des barbouzes françaises, tout en jouant des sentiments anti-impérialistes de la population. Toujours coiffé de sa toque en peau de léopard, il nationalisa les mines et prétendit incarner une voie de développement spécifique pour les pays africains. Après les indépendances, les puissances impérialistes s'affrontèrent parfois pour remettre en cause certaines de leurs chasses gardées, comme la France et la Grande-Bretagne au Biafra, une région riche région pétrolière du sud du Nigeria. Entre 1967 et 1970, 2 millions de personnes moururent dans une guerre où la France livra des armes dans de fausses opérations humanitaires, un mensonge appelé à se répéter. Dans les années 70, les États indépendants furent confrontés à un nouveau problème, avec la crise économique qui éclata. Elle entraîna la montée du chômage dans tous les pays, l'accumulation de profits sans débouché dans les pays occidentaux et en conséquence la financiarisation de l'économie, c'est-à-dire sa soumission à la spéculation financière. L'Afrique devint un terrain de placement juteux pour les financiers occidentaux. Ils poussèrent tous les pays à s'endetter pour financer des travaux publics, le plus souvent des éléphants blancs, comme en Côte d'Ivoire, la basilique de Yamoussoukro, réplique de Saint-Pierre de Rome, voulue par Oufouette. Ces dépenses somptuaires, installations industrielles, infrastructures inutiles aux populations, rapportèrent gros aux capitalistes occidentaux, ainsi qu'aux élites locales. Au Congo, il y eut le barrage hydroélectrique Inga, construit par une entreprise italienne sur le fleuve Congo, qui n'a jamais délivré plus de 20% de ses capacités. De ce barrage, Mobutu fit édifier une titanesque ligne électrique de 1700 km jusqu'au Katanga. Construite par une entreprise américaine, avec des pylônes US Steel, du matériel General Electric ultra moderne, cette ligne ne fonctionna au mieux qu'à 10% de ses capacités. Les capitalistes français participèrent à la curée. Thomson CSF construisit ainsi, dans tout le Congo, un système de communication radio qui tomba rapidement en panne. Aucune maintenance n'avait été prévue. Tous ces projets étaient financés sans restriction par l'aide au développement et des prêts des banques américaines, françaises et belges. L'État congolais s'endetta massivement. Mais quand les prix du cuivre et du cobalt s'effondrèrent, la dette devint impossible à rembourser. Le FMI imposa alors un plan d'austérité, ce qui se reproduisit à 8 autres reprises sous Mobutu. En 1983, 400 000 fonctionnaires furent licenciés du jour au lendemain. La majorité des centres de soins et des écoles du pays furent fermés ou privés de personnel. Ce fut une régression foudroyante. La monnaie s'effondra. Mais Mobutu put continuer à acheter des villas sur la Côte d'Azur sans interdit bancaire. Mais contrairement aux mensonges répétés, cette catastrophe n'était pas due aux seules frasques de Mobutu. La même chose s'est produite dans presque tous les pays pauvres. Partout, l'endettement fut suivi des plans d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale, qui ont soutenu ces pays comme la corde soutient le pendu. Ils firent exploser la pauvreté et ruinèrent le peu de services publics dans l'éducation et la santé. Et les grands groupes occidentaux mirent la main quasi gratuitement sur les anciennes entreprises d'État. En Afrique de l'Ouest, Bouygues récupéra les réseaux de distribution d'eau, France Télécom le téléphone et Bolloré les réseaux ferrés et le port. Mais si les capitalistes français protégés dans la zone du franc CFA se gavaient, les interventions du FMI et de la Banque mondiale reflétaient la domination croissante des États-Unis, qui y jouaient un rôle prépondérant. Mitterrand, conscient des menaces sur le pré carré africain de la France, le formula cyniquement en 1984. Je cite : Le danger, c'est l'Américain qui cherche à nous supplanter sur notre terrain d'excellence. À la fin des années 80, cette pression des États-Unis dans la lutte permanente que se mènent les impérialistes fut débridée par l'affaiblissement puis la chute de l'Union soviétique. Fort de leur puissance économique, les États-Unis poussèrent au multipartisme. Cette politique visait à préparer la relève des vieux régimes de partis uniques, pourris jusqu'à la moelle, mais servant de garde-fou contre l'influence soviétique, comme celui de Mobutu. Les plans d'austérité avaient laminé la société. La colère était grande contre ses dirigeants. Des opposants politiques s'appuyaient dessus pour tenter de reprendre la place. Le multipartisme fut donc à la fois un moyen de canaliser la contestation et de sélectionner de nouvelles équipes dirigeantes. Dans les prix carrés des ex-puissances coloniales, c'était aussi un moyen de redistribuer les cartes et les marchés. Pour les classes populaires, par contre, le multipartisme n'apporta pas le moindre droit démocratique. Pour sauver son influence, la France poussa, elle aussi, ses hommes liges à accepter des partis politiques concurrents. Ce ravalement de façade assura la continuité des profits de Total, Areva ou Castel, dont la bière inonde toujours le continent. Mais si la vieille bourgeoisie des pays impérialistes a appris depuis des lustres à gérer des alternances électorales, cela ne va pas de soi dans les pays pauvres, où l'enrichissement dépend directement des relations avec le pouvoir politique. Des luttes féroces pour le pouvoir éclatèrent entre politiciens. Dépourvus de bases sociales solides, ils s'appuyèrent sur l'ethnisme ou la religion pour s'assurer une clientèle électorale. En Côte d'Ivoire, à la mort de Oufouette en 1994, ces rivalités politiciennes plongèrent le pays dans le chaos, introduisant la division dans les quartiers et les cours communes où vivent les travailleurs de toute ethnie et des pays voisins. Les riches et les politiciens qui utilisaient l'ivoirité et la xénophobie se moquaient bien des conséquences à l'abri dans leurs belles villas. En 2011, après une longue période de partition, de guerre et d'intervention militaire française, Alassane Ouattara fut finalement poussé au pouvoir. Proche de la France, ami de Martin Bouygues et du fils Mitterrand, Ouattara avait aussi travaillé au FMI. Et c'est fort du soutien des institutions financières internationales qu'il a pu prendre le pouvoir et s'y maintenir jusqu'à aujourd'hui. Dans les années 90, en Afrique de l'Ouest, l'impérialisme français préserva largement son influence, au prix du chaos en Côte d'Ivoire et du soutien à des régimes dictatoriaux. Mais au Rwanda, en Afrique centrale, sa présence était bousculée par les États-Unis, qui renforcèrent notamment leur soutien militaire à l'Ouganda, un pays anglophone à côté du Congo et du Rwanda. Alors que les besoins en cuivre, en cobalt, en métaux rares explosaient avec le développement de l'informatique et des télécommunications, cette région était au cœur des luttes pour le contrôle des ressources naturelles, comme à la fin du XIXe siècle, sauf que le coltan remplaçait le caoutchouc. Jusqu'où les requins étaient prêts à aller, cela se révéla dans toute son horreur lors du génocide au Rwanda en 1994, qui fit peut-être 1 million de morts. Depuis 1973, le Rwanda, ex-colonie belge, était passé sous domination française à travers le régime militaire de Habyarimana. Cette dictature s'appuyait sur les extrémistes Hutus, et son acte fondateur avait été des massacres de Tutsis, utilisés auparavant par les colonisateurs contre les Hutus afin de diviser pour mieux régner. À partir de 1990, parmi les réfugiés Tutsis en Ouganda, le Front patriotique rwandais contesta le pouvoir de Habyarimana. La rébellion militaire du FPR était dirigée par l'actuel président rwandais, Paul Kagame, avec l'appui direct des États-Unis. La France soutint jusqu'au bout le régime extrémiste Hutu qui organisa le génocide. Ce n'était pas une erreur d'appréciation. Tous les dirigeants français étaient d'accord, qu'ils soient de gauche comme Mitterrand ou Hubert Védrine, ou de droite comme Alain Juppé. Confrontés à la victoire du FPR pro-américain, le gouvernement français organisa une fausse opération humanitaire avec la caution de l'ONU pour protéger les génocidaires. Ils furent exfiltrés vers le Congo voisin, mêlés à des centaines de milliers de réfugiés rwandais. Ces événements dramatiques précipitèrent tout le Congo dans la guerre. Au Congo, depuis la fin du régime de parti unique de Mobutu en 1991, la situation politique était chaotique. Le délabrement de l'État était tel que même l'exploitation minière était en chute libre. Les États-Unis poussèrent alors au pouvoir Laurent-Désiré Kabila, un chef de guerre qui s'était taillé un fief à l'est du pays. En 1997, Kabila renversa Mobutu avec l'appui des armées ougandaises et rwandaises qui combattaient à l'est du Congo les milices génocidaires Hutu. Les bandes armées de Kabila et de ses alliés se financèrent en vendant des gisements miniers à des groupes américains, canadiens, britanniques et sud-africains. Le Canadien Banro Ressources mit la main sur l'étain, l'or et le coltan de la société minière du Kivu, De Beers sur ses diamants et l'American Mineral Fields sur le cuivre et le cobalt du Katanga. Dans cette lutte pour le contrôle des richesses du Congo, les trusts français fumirent hors jeu, car la France soutint jusqu'au bout Mobutu. Pendant des années, le Congo fut ensanglanté par des exactions des milices, alliées ou rivales du gouvernement, d'origine congolaise ou étrangère. Ces guerres furent les plus meurtrières depuis la Seconde Guerre mondiale et ont impliqué jusqu'à 8 pays africains. Malgré le chaos, l'or, le cobalt, les diamants et les métaux rares du Kivu ou du Katanga ont nourri les trafics de ces minerais de sang. Ils ont assuré des profits faramineux aux géants capitalistes Glencore, De Beers, Rio Tinto, qui ont leur siège dans de luxueux palaces en Suisse, à New York ou à Londres. Aujourd'hui, l'est du Congo est toujours ravagé par les combats. Ils font partie de cette guerre que se mènent les impérialistes à l'échelle mondiale. Pour la population, ce sont les massacres au quotidien. Les milices attaquent les villages et volent les récoltes de cacao. Les coupeurs de route raquettent les chauffeurs routiers et assassinent ceux qui résistent. Les mineurs extraient le coltan, l'or, les diamants sous la menace des kalachnikovs, des miliciens qui contrôlent les mines. Et pour bien des femmes, ce sont les viols et les mutilations sexuelles. La chute de Mobutu a ainsi laissé vacant le poste de gendarme dans la région. Plusieurs pays, dotés d'une armée solide et bien équipée, prétendent jouer ce rôle. L'Afrique du Sud, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et derrière eux leurs parrains impérialistes. L'armée rwandaise, forte de l'appui américain et du crédit politique de Kagame qui a arrêté le génocide de 1994, est une des plus solides. Économiquement, le Rwanda est une plaque tournante du trafic des minerais de sang du Congo. Il finance le régime de Kagame, ainsi que les campagnes visant à masquer son caractère dictatorial. Et c'est ainsi que l'on voit le slogan « Visit Rwanda » jusque dans les stades européens et sur les maillots des joueurs du PSG et d'Arsenal. Aujourd'hui, ni les liens du dictateur Kagame avec les États-Unis, ni la politique criminelle de la France dans les génocides des Tutsis n'empêchent les capitalistes français de revenir au Rwanda. Vivendi, le groupe de médias et de communication de Bolloré, a fait construire dans la capitale un service de fibre optique, ainsi qu'un complexe de loisirs avec cinéma, salles de concert et restaurants. Total y a signé des contrats commerciaux. Quant au Danemark et au Royaume-Uni, ils ont signé avec le Rwanda des accords pour y déporter leurs migrants. Dans toute l'Afrique de l'Est, la concurrence s'est encore accrue avec la découverte d'hydrocarbures. Et même si la production est souvent hypothétique, la compétition est rude entre les compagnies françaises, américaines, italiennes, chinoises, soutenues par leurs États respectifs. En Ouganda, dans le lac Albert à la frontière avec le Congo, d'importantes réserves de pétrole sont ainsi en train d'être mises en exploitation par Total, associée en position dominante avec l'entreprise publique chinoise CNOOC. Cynisme peut-être involontaire, les zones d'extraction ont été appelées Tilenga, le nom d'une antilope menacée par le projet, et Kingfisher, le martin pêcheur, le roi des pêcheurs. Mais le roi, c'est Total. Et l'État ougandais doit en passer par ces conditions. Il a par exemple dû renoncer à construire une grande raffinerie, car Total veut exporter le pétrole brut et garder le contrôle du raffinage. Pour exporter le pétrole, Total a imposé son projet ICOP, un oléoduc, un oléoduc chauffé long de 1443 km qui débouchera dans un port de Tanzanie. Il traversera des ressources naturelles, des zones agricoles et des ressources d'eau potable, où vivent 40 millions de personnes. D'ores et déjà, plus de 110 000 personnes ont été chassées de leurs maisons. Total, avec l'appui de l'armée française qui y a envoyé des formateurs, a exigé de l'État ougandais la création d'une police pétrolière. Un villageois chassé de ses terres raconte ainsi. J'ai perdu toutes mes récoltes. Plus aucune culture n'est autorisée et la police nous a dit que toute personne qui essayerait de réutiliser ces terres serait torturée. Les scientifiques, l'ONU et même le pape ont pris position contre ces projets. Mais peu importe, c'est Total qui décide. Et les dirigeants français servent ses intérêts. À l'heure où l'impérialisme français est remis en cause dans son ancien précaré, il veut d'autant plus avancer dans un pays sous domination américaine. Alors pour Macron, tout est bon pour, je cite, « accroître la présence économique française en Ouganda ». Partout en Afrique, les entreprises pétrolières recherchent de nouveaux gisements. Alors que les trusts américains, forts de leurs immenses réserves de pétrole et de gaz de schiste en Amérique du Nord, avaient plutôt délaissé le terrain, ils sont de retour. Comme leurs concurrents avancent, les compagnies américaines ont repris leur exploration pour affaiblir l'adversaire et saper son hégémonie, pour reprendre la formule de Lénine de 1916. C'est ce qu'a entrepris ExxonMobil depuis 2018 pour ne pas laisser le terrain aux Français Total ou aux entreprises d'État chinoises. Ces trusts et leurs États financent des armées de géologues qui recherchent de nouveaux gisements. En France, le Bureau de recherche géologique et minière joue ainsi un rôle actif dans la diplomatie des minerais. Lors d'une visite de Macron en République démocratique du Congo, il a signé, le BRGM, un accord avec le service géologique de l'État congolais afin de renforcer la connaissance du sous-sol congolais. Traduit en clair, il s'agit de préparer les futurs profits des capitalistes français. Total, ExxonMobil, Glencore, Rio Tinto emploient les meilleurs scientifiques et les meilleurs ingénieurs. Mais leurs compétences servent uniquement les profits, pour connaître et contrôler les richesses minérales et pétrolières. C'est un gâchis sans nom, car ces scientifiques et les moyens colossaux qu'ils utilisent pourraient assurer le développement réel du continent, à savoir satisfaire les besoins immenses de la population. Avec la course aux ressources naturelles, qui requiert des installations industrielles et des moyens de transport, des pans de l'économie africaine se sont développés. C'est avant tout pour alimenter le marché mondial, et très peu l'Afrique. Mais la croissance liée aux exportations conduit des journaux économiques à présenter le continent comme une zone en plein développement. Le nombre de millionnaires africains a été multiplié par 3 en 20 ans. Il y a même un mot nouveau inventé pour eux. Les africapitalistes. Comprenez, l'entrepreneur africain qui permettrait à son pays d'échapper à la corruption des politiciens et de sortir le pays du sous-développement. Pour en juger, voyons le modèle. L'homme le plus riche d'Afrique, le Nigérian Aliko Dangote. Avec 15 milliards de fortune, il est surnommé le Bill Gates africain, dont il est l'ami personnel. Dangote a été initié au commerce par son grand-père. Alors cet aïeul, issu d'une vieille famille de commerçants, était devenu l'homme le plus riche de l'Afrique coloniale dans les années 1950, en fournissant en produits alimentaires la Compagnie britannique d'Afrique de l'Ouest. Le petit-fils, Dangote, a commencé dans les années 70, en reprenant l'import-export d'aliments, puis de ciment. Mais deux choses ont fait exploser sa fortune. D'abord, la privatisation des cimenteries d'État dans les années 80. Dangote a profité de ses liens avec la dictature nigériane pour mettre la main dessus à bon marché. Puis, ses affaires explosèrent avec le boom du pétrole, dont le Nigeria devint le premier producteur d'Afrique. Dans la capitale économique, Lagos, les gratte-ciels et grandes constructions poussèrent comme des champignons, les prix du terrain dépassant certaines années ceux de New York ou de Tokyo. Ce qui fit le pactole du cimentier Dangote, qui livre aujourd'hui les chantiers de toute l'Afrique. Celui qui se présente comme un self-made man est le pur produit de l'exploitation coloniale et capitaliste. Avec l'Afrique du Sud, le Nigeria est aujourd'hui la première puissance économique d'Afrique subsaharienne et compte près de 10 000 millionnaires et 4 milliardaires. Mais quelle est la vie des classes populaires ? Le pétrole imbibe tout. Les pêcheurs et les paysans du delta du Niger, la région pétrolière, sont empoisonnés car les eaux et les sols sont engloués de boue noire et huileuse. L'espérance de vie dans cette zone est de 40 ans, 14 ans de moins que dans le reste du pays. Les villages sont désertés et les habitants affluent à Lagos où 20 millions d'habitants s'entassent. Mais quel travail trouver ? Il existait bien auparavant une petite production industrielle dans le textile, la quincaillerie ou les matériaux de construction, surtout des entreprises d'État. En 20 ans, elle a été détruite à 90%. Le Nigeria, soi-disant champion économique, avec des taux de croissance de 7% par an, s'est désindustrialisé. Sa production électrique est la moitié de celle de la Corée du Nord, qui compte 10 fois moins d'habitants. Pour gagner quelques sous, des millions de gens font du trafic de pétrole. Ils embarquent des bidons sur une mobylette et font des dizaines, voire des centaines de kilomètres pour les remplir en douce sur les puits, en payant un bakchiche. Puis ils jouent au chat et à la souris avec la police pour livrer des raffineries clandestines qui chauffent le pétrole sur de petits feux qui rendent l'air irrespirable. Par contre, pour trouver de l'essence en station-service, il faut faire des heures de queue. Car sans raffinerie en état de marche dans le pays, l'essence est importée d'Europe. Alors, en mai dernier, dans une zone franche près de Lagos, Dangote a inauguré une raffinerie ultra-moderne, où opère une myriade d'entreprises occidentales, le géant américain Honeywell, les Français Air Liquide, Schneider Electric. Mais si cette raffinerie produit un jour les volumes annoncés, elle permettra surtout à Dangote et aux courtiers internationaux de s'enrichir, mais elle sera un îlot de modernité dans un océan de misère. Voilà ce que signifie le développement économique en Afrique. Non seulement les ressources naturelles sont siphonnées, mais toute l'économie est modelée pour ce pillage. Tous les secteurs agricoles ou industriels sont laminés par la concurrence des marchandises moins chères venues d'ailleurs. Au Sénégal, Lactalis exporte massivement depuis la France du lait en poudre qui bénéficie des subventions de l'Union européenne, tandis que les éleveurs locaux ne peuvent vendre leur lait. Des pays entiers se retrouvent dépendants du cours en bourse d'un ou deux minerais ou du pétrole. Or, ces prix fluctuent de façon délirante au gré de la spéculation financière. Entre 2000 et 2008, le prix du cuivre a été multiplié par 5. Cela avait alors créé le mythe du miracle africain. Mais avec la crise de 2008, en 6 mois, il a été divisé par 3, puis multiplié par 4 en 3 ans, puis redivisé par 3 en 5 ans, puis triplé à nouveau depuis le Covid. Or, des pays entiers, comme la République démocratique du Congo, ont leur budget quasi indexé sur le prix du cuivre. Une chute des cours et l'État est en faillite, et des millions de travailleurs passent de la survie à la famine. Dans le manifeste communiste, Marx avait écrit comment la bourgeoisie forçait, je cite, « sous peine de mort, toutes les nations à adopter le mode bourgeois de production ». Aujourd'hui, en Afrique, ce processus se poursuit avec les moyens les plus modernes de transport, de communication, d'exploration, qui atteignent les zones les plus reculées. Ils pourraient transformer la vie de l'humanité de façon prodigieuse, mais mis en œuvre par le capitalisme financiarisé, le résultat est monstrueux. Les nouveaux capitalistes africains sont le type même de ce qui, à l'époque coloniale, était appelé des compradors. Ils ne sont pas des concurrents des capitalistes étrangers, mais au contraire des intermédiaires qui s'enrichissent du pillage de leur propre pays. Moïse Katumbi est ainsi la première fortune congolaise, enrichie dans le transport du cuivre du Katanga comme sous-traitant des compagnies occidentales. Là où les bourgeois occidentaux sont maîtres de leurs affaires et sont servis par leur État, les bourgeois congolais, eux, n'ont aucune indépendance et ne peuvent survivre qu'avec la protection de l'État ou des seigneurs de guerre qui tiennent lieu d'État local. Beaucoup font eux-mêmes une carrière politique, comme Katumbi, qui est candidat à l'élection présidentielle prévue cette année. Ses liens avec l'ex-président lui ont permis de s'enrichir avant de devenir lui-même gouverneur du Katanga et d'y acheter un club de foot pour assurer sa popularité. Ceux qui ne s'enrichissent pas directement des rentes minières et pétrolières sont dans la finance, la télécommunication, l'agroalimentaire, mais très peu dans les secteurs à haut niveau de capital. La bourgeoisie africaine, comme toutes les bourgeoisies tard venues, restée en position subordonnée à l'impérialisme, est une classe parasite et faible qui vit dans l'ombre du pouvoir. Contrairement à la fable qui raconte que ces hommes d'affaires pourraient sortir leur pays du sous-développement, ils sont incapables de développer les infrastructures, les routes, les réseaux d'eau et d'électricité, qui seraient vitaux pour des millions d'Africains, mais qui ne sont pas immédiatement profitables. Au Kenya, aujourd'hui, des enfants apprennent ainsi à écrire des lignes de code informatique à l'école, avant de retourner vivre dans leur bidonville, sans eau ni électricité. C'est cela le développement de l'Afrique, celui d'un monde où l'on meurt d'une gastro-entérite, mais où les géants des télécommunications s'enrichissent avec des smartphones construits avec les minerais de sang du Congo et le pétrole qui souille le Nigeria. Le mythe du développement de l'Afrique est d'autant plus délirant qu'en réalité, à force de pillages et de guerres, bien des États sont entrés en déliquescence et ne contrôlent plus leur propre territoire. En Afrique centrale, mais aussi en Somalie, en Éthiopie, au Soudan, des millions d'êtres humains sont depuis 30 ans des réfugiés à vie. En 2011, les grandes puissances sont intervenues pour renverser Kadhafi et prendre le contrôle du pétrole libyen. Cela a entraîné la multiplication des groupes rebelles et djihadistes et le chaos s'est étendu, d'abord au Mali, grand pays d'Afrique de l'Ouest, puis à tout le Sahel, la vaste région qui borde le désert du Sahara sur des milliers de kilomètres. En 2013, François Hollande annonça brusquement que la capitale Bamako était menacée par une légion de troupes djihadistes. La France obtint un appel à l'aide officielle des dirigeants maliens. Pour la première fois depuis l'indépendance du pays, en 1960, les troupes françaises revenaient au Mali. Cette intervention reposait sur un mensonge, du même type que les armes de destruction massive inventées par les États-Unis pour envahir l'Irak. Les djihadistes n'étaient que quelques milliers, équipés de simples pick-up et de kalachnikovs. L'eussent-ils projeté, ils n'avaient pas les moyens de prendre une ville de 3 millions d'habitants. Mais les menaces ont été montés en épingle pour justifier l'envoi des troupes françaises. Sous toutes les latitudes, à toutes les époques, les États impérialistes mentent toujours. Nous étions alors les rares, ici en France, à dénoncer cette intervention. Nous écrivions qu'elle ne visait qu'à perpétuer le pillage, à protéger les intérêts d'Areva dans le Niger voisin, et ne pourrait qu'aggraver le chaos et en aucun cas améliorer le sort de la population. Pour la France, le véritable but était de réaffirmer son rôle de grande puissance, notamment auprès du parrain américain. C'était aussi une affaire pour les marchands de canons. Le PDG de Dassault déclara que l'opération au Mali a eu une influence positive sur l'image du Rafale. Mais cette opération fut une sale guerre, la plus importante menée par la France depuis des décennies, avec 3 000 puis 5 000 militaires stationnés pendant 8 ans, encadrant 15 000 soldats, en particulier de l'armée tchadienne, dont la brutalité est notoire. Avec des villages bombardés, la destruction des quelques centrales électriques, de tout ce qui est nécessaire à la vie. 20% de la population malienne a été transformée en réfugiés. Mais les groupes armés, eux, ont prospéré plus que jamais et sévissent désormais dans toute la région. Face aux bandes armées, l'État malien est complètement impuissant, comme bien d'autres du Burkina Faso au Congo. Bien des commentateurs pointent la corruption des dirigeants, parlent même de malédiction africaine. Quelle hypocrisie! En réalité, c'est le produit de la misère et du chaos provoqué par la domination impérialiste. Engels avait défini l'État par cette formule, une bande d'hommes armés au service de la classe dirigeante. Ici en Europe, sauf dans des périodes de crise politique aiguë, ces bandes armées restent dans l'ombre car les États prennent aussi en charge, même si c'est de plus en plus mal, des fonctions sociales utiles, écoles, hôpitaux, généralement plus visibles que les militaires. La stabilité des États n'est pas une question de culture démocratique, comme on entend souvent, mais repose sur un développement économique suffisant pour qu'il semble au-dessus des classes sociales, garant de l'intérêt général. Les États africains, eux, n'ont jamais réuni ces conditions. Au Mali, après l'indépendance, l'État n'avait presque aucun personnel formé ni de moyens financiers. Il se résumait pour l'essentiel à l'armée, chargée d'exécuter les ordres d'un petit nombre de juges et de préfets inaccessibles à la population. Comme dans bien des pays pauvres, il ne fait pas bon croiser le chemin d'un représentant de l'ordre, d'un juge ou d'un commissaire. Il faut souvent payer un bakchich pour obtenir un simple papier administratif ou du travail. Pour une broutille, lorsque l'on est pauvre, on risque l'arrestation, voire la mort. Dans un pays pauvre, presque sans industrie, le pouvoir d'État est un moyen d'enrichissement. L'armée malienne avait 7 généraux au moment de l'indépendance. Et elle en compte aujourd'hui 150, avec chacun son budget personnel, sa suite, sa voiture de fonction. Le budget de la présidence équivaut à celui des 10 principaux hôpitaux du pays cumulé. Symbole de ce pourrissement, l'unique ligne de chemin de fer de Bamako à Dakar, construite sous la colonisation, est à l'arrêt depuis 5 ans faute d'entretien. Alors, si l'État bénéficiait d'un certain soutien à la dépendance, il l'a vite perdu. Il ne fait que s'engraisser sur le dos de la population qui meurt à petit feu. C'est là le terrain qui fait pousser les groupes armés. Au Sahel, la grande majorité de ces groupes se réclament du djihadisme, du terrorisme islamique. Il y en a une multitude, Ansar Eddin, Al-Qaïda au Maghreb islamique, Boko Haram. Chacun paraît toujours dépasser en horreur le précédent, massacrant des villageois, terrorisant les enseignants sous prétexte qu'ils ne devraient enseigner que les matières autorisées par le Coran, interdisant aux filles d'aller à l'école, en les kidnappant, parfois en les tuant. Au Mali, les groupes djihadistes ont prospéré depuis la région désertique du Nord, majoritairement habitée par des Touaregs, un peuple d'éleveurs repoussés toujours plus vers le désert. Les jeunes sont sans ressources, ils ne peuvent qu'émigrer ou rejoindre les bandes armées. La plupart des camps de djihadistes sont en fait des cases habitées par des miséreux qui imposent leurs impôts sur des villages alentours. Ils vivent de rapines, de trafics de toutes sortes, y compris de la drogue. On est loin des fantasmes de journalistes sur les vastes légions d'Al-Qaïda ou de Boko Haram. Derrière ces allégeances médiatiques, il y aurait une multitude de petites communautés isolées les unes des autres et poussées plus par la survie et le détroussage des populations voisines que par la conviction religieuse. Alors si les États, soutenus et armés par les grandes puissances, sont incapables d'en venir à bout, cela en dit plus long sur leur propre décrépitude que sur la force militaire de ces groupes. Cela en dit long aussi sur l'incapacité du système capitaliste à apporter ne serait-ce que l'eau courante et à satisfaire les besoins élémentaires des populations. Pour les habitants de ces régions, les armées officielles ne valent pas mieux que les djihadistes. Lorsque l'armée malienne vient traquer les rebelles, ces soldats n'ont aucun lien avec la population. Parfois, ils ne parlent pas sa langue et la considère tout entière comme une ennemie, exactement comme une armée d'occupation. S'il y a eu une attaque armée dans le secteur, les soldats mettent des barrages sur les routes. Les habitants qui doivent aller au marché vendre leurs produits pour survivre se font confisquer leurs motos. Pour l'armée, il est beaucoup moins dangereux de s'en prendre à des villageois que d'attaquer des groupes armés. Comme toujours dans les guerres en Afrique, des commentateurs expliquent la violence par la haine entre ethnies. Quel mensonge! Ceux qui alimentent l'ethnisme, ce sont les officiers maliens, burkinabés ou nigériens, et surtout les officiers occidentaux qui les forment. Ils théorisent que les groupes armés sont soutenus par telle ethnie dans son ensemble, comme les Touaregs ou les Peuls. En représailles, l'armée malienne, celle reconnue par les grandes puissances, a massacré des villages Peuls entiers. D'après des organisations humanitaires, elle aurait tué en 2020 plus de civils que tous les groupes djihadistes ensemble. En fait, à force de pillage, la guerre est devenue un état permanent de la société dans toute une partie de l'Afrique. et bien des États africains incapables de résoudre le moindre problème de la population ne survivent que par la force militaire. Mais les armées officielles, pourries et corrompues, ne savent se battre que contre des villageois désarmés. Alors les dirigeants ont besoin d'autres mercenaires plus compétents. De ce qui fut son précaré, l'armée française a longtemps eu le monopole pour jouer ce rôle. Mais le chaos au Sahel n'a fait que grandir, et l'intervention française y a apporté sa contribution. Et on va faire une petite pause.
On fait une pause de 15 minutes, ce qui veut dire qu'on se retrouve à 16h20, disons. Voilà, pour la suite de l'exposé. Vous pensez à prendre vos affaires si vous comptez sortir de la salle pour prendre l'air. Ne laissez rien sur les chaises. Merci.